おかしいおかしい
15 minutes, vous êtes à l'écoute de Radio Kati, place à dialogue entre Congolais, présenté par Kevin Couté.
Bonsoir, enseignement supérieur et universitaire, les présidents des conseils d'administration de ces établissements adressent un mémorandum au Premier ministre, les mots dans lesquels ils reprochent au ministre Macha Komamba plusieurs griefs, notamment le non-respect de la procédure dans les nominations des gestionnaires de ces institutions. Comment comprendre ces accusations des présidents des conseils d'administration des universités et instituts supérieurs? C'est la question au centre de notre débat de ce soir et pour y répondre, je reçois dans cette émission le professeur Léonard Macha Komamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir, madame.
Le professeur Baudouin Boissa, professeur à la faculté de médecine et membre de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin. Il est avec moi dans ce studio. Bonsoir, docteur Boissa.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Chibangu Kalala, député national et professeur de droit à l'université de Kinshasa, aussi avec moi dans ce studio. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, madame.
Vous êtes nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Raymond Kasangala de Kinshasa. Il est regrettable aujourd'hui de voir l'état de nos universités et instituts supérieurs. Je soutiens le ministre Machako qui cherche un peu à remettre de l'ordre dans ce secteur. Il faut remplacer ceux qui se sont distingués dans l'incapacité de bien gérer les institutions universitaires malgré les procédures de nomination car l'urgence s'impose. Wabelo de Matadio Bakongo, ses membres des conseils d'administration ont raison de se plaindre car lorsqu'un ministre vient aux affaires, il cherche à placer les siens au pouvoir à la défaveur des gestionnaires en place. Le pays ne peut pas fonctionner dans la dictature et au mépris des autres. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Les présidents des conseils d'administration des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dénoncent les malaises rampants dans les établissements d'enseignement public, malaise qu'ils imputent à l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans un mémorandum adressé au Premier ministre Adolphe Mozito, Mgr Tarsis Tshibangu, les professeurs Penny Nyango et Mbula Moko, tous présidents des conseils d'administration des universités, instituts supérieurs techniques et instituts supérieurs pédagogiques, demandent notamment les respect de la procédure dans les nominations des gestionnaires à la tête de ces établissements. L'essentiel du contenu de ce mémo avec Willy Akondalomanga.
Quelques griefs sont retenus contre le ministre Macha Komamba, dont la mise en place intempestive et sans raison des autorités académiques avec un record absolu dans les établissements de la province du Nord Kivu. Le cas aussi de l'université de Kinshasa qui compte 3 recteurs nommés au cours de la même année académique. L'usurpation de pouvoir des établissements par le ministre allant jusqu'à présider des réunions des organes de base, cas de l'Emikim, où le ministre a dirigé le conseil de l'université en ordonnant la nomination des doyens des facultés par le recteur alors que ces derniers sont élus par les pairs. L'imposition d'une taxe de $5 à charge de l'étudiant pour les activités dites expo et su qui en principe devaient relever du budget de l'État. Le conseil d'administration demande au Premier ministre la reconnaissance des prérogatives que leur accordent les textes légaux et réglementaires, le respect des dispositions statutaires relatives à la nomination et à la mise en place des chefs d'établissement. Enfin, les présidents des conseils d'administration soutiennent qu'à 3 mois de la commémoration des 50 ans de l'indépendance du pays, il ne serait pas indiqué que les milliers universitaires soient en proie à des agitations de quelque matière que ce soit, grève, des enseignants et manifestations étudiantines.
Merci Willy Akunda, professeur Baudouin Boissa, vous êtes professeur à la faculté de médecine et membre de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Vous venez de suivre avec moi plusieurs griefs retenus contre le ministre Macha Komamba. Comment comprendre cela?
Merci pour la question, mais moi je crois que nous ne venons pas faire ici... un procès contre notre ministre du TTL, parce que ce n'est pas prévu.
C'est pas un procès, mais
attendez d'abord, ce n'est pas prévu. Et l'homme qui vous parle ici n'est pas seulement professeur d'université, je suis également un acteur politique, et n'étant pas de la famille politique du chef de l'État, mais étant impliqué dans ce mouvement de grève qui est à la vitrine, je ne voudrais pas qu'on puisse politiser la situation qui se passe au sein de notre université. Donc, que cela soit bien clair, l'arrêt de travail qui existe aujourd'hui à l'Université de Kinshasa, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème syndical. Je crois que cela doit être bien entendu, qu'on ne peut pas politiser une grève, parce que c'est une grève tout à fait légale, qui a suivi toutes les procédures. D'abord, le 30 janvier, les professeurs avaient adressé un ultimatum au gouvernement. Le 17 février, ils ont transmis un mémorandum au gouvernement avec leur cahier des charges. Et le 20 février, ils ont, n'est-ce pas, arrêté les activités pour deux raisons. Un, ils ont réclamé l'exécution du barème adopté en première lecture par le Parlement, et ils ont demandé la promulgation d'un parti spécifique. Donc, c'est une affaire tout à fait, n'est-ce pas, légale. Maintenant, nous avons pris connaissance ce samedi du mémorandum qui a été adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur la manière dont notre autorité de tutelle gère en tant que politique son ministère. Bon, je crois qu'il faut examiner point par point ce qui est reproché à notre ministre dans ce mémorandum et savoir si les riefs qui sont retenus par ces autorités qui sont là depuis plusieurs années, je vous rappellerai que moi personnellement, je suis professeur à l'université de Kinshasa depuis 1976, depuis octobre, j'ai connu mon Saint-Yves Bango comme recteur pendant très longtemps. C'était notre recteur magnifique de l'Université nationale du Zaïre, celui qui m'a engagé. Donc, il connaît bien les textes. Et quand il se plaint qu'on viole les textes qui régissent notre enseignement supérieur universitaire, peut-être qu'il y a des raisons à ça.
Oui, mais vous, personnellement, ne parlez pas au nom de Monseigneur Kibango personnellement. Vous pensez que ces accusations sont fondées?
Bon, moi, je pense que si les trois présidents du conseil, du conseil d'administration de notre enseignement supérieur se plaignent, c'est que il y a quand même un problème. Et je pense qu'on doit examiner correctement ce mémorandum. Je pense également que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aurait tout intérêt à recevoir les trois présidents du conseil d'administration en présence du ministre des tutelles pour qu'ensemble, ils voient un peu comment mettre fin à cette crise, parce qu'en fait, avec ce mémorandum, les présidents du conseil d'administration ont trouvé une crise au sein de notre ministère. Crise qu'il faut éteindre avant le 30 juin 2010, date des 50 ans de notre indépendance.
Merci, Dr. Bassa. On va revenir à vous. Monsieur le ministre, vous avez suivi le papier que Willy nous a présenté tout à l'heure. Plusieurs griefs retenus contre vous, entre autres des décisions intempestives que vous prenez. Vous vous substituez au conseil d'administration, au comité de gestion. Vous institutionnalisez l'instabilité dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Comment vous réagissez à toutes ces accusations, monsieur le ministre?
Merci beaucoup, madame. Je tiens à saluer d'abord le professeur Boissa et le professeur Kibango qui sont avec vous dans le studio. Et me réjouir de voir ce mémorandum non seulement être présenté au premier ministre, être largement diffusé dans la presse nationale et internationale. Comme c'est rappelé dans le mémorandum, le secteur de l'enseignement supérieur universitaire est bien réglementé et les présidents des conseils d'administration ont cité toute une série de textes légaux, mais ils ont oublié, peut-être intentionnellement, de rappeler aussi les ordonnances qui donnent les attributions du ministère. Il y a une attribution qui est générale, qui porte sur le ministre en charge, le contrôle et la tutelle des organes et organismes qui dépendent de son secteur. Et à l'occurrence, en ce qui concerne maintenant une des fonctions spécifiques de l'enseignement supérieur, la création et la tutelle de tout ce qui est dans son secteur. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je suis très à l'aise parce que finalement, certains de signataires sont dans le circuit depuis 43 ans et d'autres pratiquement plus de 30 ans. Et ils disent qu'on viole les textes Alors, je voudrais me poser la première question. Quand j'arrive à la tête du ministère, au mois d'octobre 2008, ma première question que je pose, combien d'établissements nous avons, province par province? Ni l'administration, ni le conseil d'administration ne sont capables de le dire, parce que c'est bien de dire qu'on a des prérogatives. Faudrait-il encore les exercer? Le deuxième exemple que je vais citer, j'arrive à la tête du ministère. L'université, qui est l'université de maire de signataire, a reçu de médecine 7 ans de chevauchement d'année académique, polytechnique 5 ans de chevauchement, à l'ISTA 3 ans de chevauchement. Et la question que je me pose, faut-il soulever qu'on a des attributions ou réellement les exercer pour ne pas finalement naviguer à vue? Troisième élément, je pense que la force de Dieu, c'est qu'il nous facilite les choses. Au moment où j'arrive à la tête du ministère, je trouve un audit qui avait été fait dans les 11 provinces, dans tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire. L'analyse montre qu'il y a une mauvaise gestion académique, financière, administrative et domaniale, le patrimoine des établissements publics aliénés. Alors, là aussi, je me pose la question, où étaient les signataires de ces du mémorandum? Enfin, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, nous avons à peine 1400 professeurs pour un nombre d'étudiants qui nous amène autour d'un million. On devrait avoir finalement autour de 50 000 professeurs. Cet élève ne se prépare pas un jour. Ceux qui géraient les organes depuis toutes ces années, où étaient-ils? Et donc, moi je suis disposé à examiner toutes les questions, parce que quand on m'accuse même d'avoir nommé 3 recteurs en une même seule année académique, j'ai devant moi la succession de tous les recteurs, mais comme cite 3 recteurs que j'aurais nommés, parce que même si on défend une cause, il ne faut jamais faire une contre-vérité, parce que il est dit clairement, les écrits demeurent, et les écrits peuvent confondre tout ce qui, peut-être avec beaucoup de légèreté, peuvent avancer des choses, mais qu'on peut très rapidement montrer qu'elles ne sont pas fondées.
Voilà,
donc,
monsieur,
nous sommes disposés vraiment à analyser tous les différents points de façon à ce qu'on puisse faciliter la compréhension de la situation à l'ensemble des auditeurs.
Voilà, monsieur le ministre, vous dites que vous, quand vous êtes arrivé à la tête de ce ministère, vous avez constaté qu'il y avait une mauvaise gestion au sein des instituts supérieurs et universités. Mais est-ce que vous avez cherché à rencontrer les présidents des conseils d'administration de ces universités et instituts supérieurs?
Ah, c'est une très très bonne question. Alors, il faut pour la vérité historique, lorsque j'arrive à la tête du ministère, effectivement, j'avais l'intention de pouvoir rencontrer les animateurs. Et figurez-vous que le président du conseil d'administration des universités a exigé que j'aille le voir chez lui à Réguigny. C'est le premier fait. Le deuxième fait, je pense qu'il y a des images. Les présidents du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques, le président du conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, je pense non seulement les avoir associés sur des centres de sur-terrain et avec des séances de travail pour montrer que finalement ce système depuis 30-40 ans a été abandonné et par le pouvoir, mais également par ceux qui aujourd'hui disent qu'ils ont des prérogatives. Et donc, là, comme chaque fois il faut dire, amener des preuves, si vous regardez dans la plupart des cinémathèques, au début, j'ai associé, mais il n'est pas normal que le président du conseil des universités exige que le ministre qui en charge le secteur, pratiquement, se déplace pour aller le voir. Je pense que c'est l'inverse qui doit se faire.
Et à cause de cela, depuis, vous n'avez plus rencontré les présidents du conseil?
l'administration. Non, nous rencontrons. Je pense que vous regardez encore des images de quand j'ai fait ma première adresse au comité, au chef d'établissement de la ville de Kinshasa. Regardez bien des images, vous verrez que le chef de conseil d'administration était là. Ils avaient même parlé et on a abordé les problèmes qui concernent le secteur. Toutes les correspondances que le ministre fait, il réserve une copie au président du conseil d'administration pour que rien ne se fasse. Et même j'inscris des points à l'ordre du jour du conseil d'administration. Si vous regardez aussi la clôture officielle de l'année académique à Lubumbashi, la personne qui était à ma droite, c'était le président du conseil d'administration des universités. Vous pouvez aussi, il y a eu des séances de travail au début que nous avons tenues sur la stratégie pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur. L'animateur était le secrétaire permanent du conseil d'administration des universités. On a déjà eu des séances de travail avec les secrétaires permanents du conseil d'administration des universités techniques.
Oui, monsieur le ministre.
Nous avons des éléments qui montrent que, en ce qui concerne le ministre,
Voilà, merci monsieur le ministre, professeur Tshibangu Kalala, vous êtes député national mais aussi professeur d'université. Quand vous lisez, vous parcourez les griefs portés contre le ministre Macha Komamba, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup madame, je vous remercie pour m'avoir invité à cette émission. Je tiens d'abord à saluer le professeur Macha Komamba, qui est notre ministre de tutelle. Je tiens aussi à le féliciter pour le travail qu'il fait depuis un certain temps pour essayer d'assainir ce secteur. On a trouvé des établissements d'enseignement supérieur pratiquement dans toute la forêt du Congo qui ne respectent aucun critère de viabilité. Et le travail pour pouvoir améliorer cette question, je tiens à le féliciter. Et madame, s'agissant de la question sur notre table ce soir, moi je suis gêné, embarrassé de voir ce genre de questions débattues sur la place publique.
Une question gêne.
Ça signifie qu'il y a un malaise profond dans le secteur de l'enseignement supérieur. Quand on voit le ministre de la République en contradiction sur la place publique avec des acteurs importants de ce secteur qui est vital pour la vie de notre pays, moi, ça me gêne. Mais il n'est pas question ce soir, pour moi, de faire le procès des uns et des autres, de dire qui a raison, qui a tort, parce que chacun va de cette part. Je crois qu'il faut dépasser ça, madame. Ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu dans le mémorandum des auteurs de ce document, et ce document porte des grosses signatures. Quand on parle de Mgr Tshibangu Tshishiku, c'est un monument dans le secteur de l'enseignement universel de notre pays. Je vois qu'il a signé ce document. Maintenant, ce qui est positif dans ce document, c'est qu'on propose des réformes. Il y a un document qui est annexé à ce mémorandum qui propose des réformes. Je crois qu'il faut aller là-bas. Voir qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour introduire de grandes réformes dans ce secteur vital. Madame, l'enseignement, l'éducation, c'est le noyau de toute société humaine. Une société où l'éducation, l'enseignement sont par terre, où il y a des désordres, il y a de l'anarchie, de contestation, eh bien, c'est que la formation de l'homme, l'homme qui est le plus grand capital, la plus grande richesse de notre pays. Donc si sa formation, son instruction se trouve dans une situation aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas gagner la bataille contre le sous-développement et la pauvreté. Donc il faut qu'on se mette autour, aujourd'hui, autour de la table. Qu'on essaie de regarder tous ces textes qu'on invoque, qui datent de 1981. Bon, écoutez, ça fait déjà des années que les choses ont évolué. Donc il faut que dans un esprit de consensus, parce que nous devons travailler ensemble, la main dans la main, il ne faut pas qu'il y ait le ministre d'un côté en train de faire ce qu'il veut faire, les acteurs sociaux qui sont dans le domaine de l'enseignement font tout autre chose. Il est temps, aujourd'hui, dans cet environnement de démocratie et de liberté, que nous puissions nous mettre autour de la table, qu'on revoie tout la réforme. Demain, comment nous devons fonctionner? Est-ce que le ministre doit continuer à nommer des recteurs, ou même le président de la République, son président, doit continuer à nommer des recteurs ou des directeurs généraux? Parce qu'il y a des pratiques dans d'autres pays où ce sont les pères qui désignent les dirigeants, les autorités académiques. Les doyens de sa faculté, ce sont les pères qui désignent. Est-ce qu'il faut que le pouvoir politique continue à avoir la mainmise sur ce type d'activité. Et donc tout ça, ça doit faire l'objet de beaucoup de réflexions, de discussions, et qu'on puisse revoir tous ces textes qui régissent le secteur, et ramener des textes au niveau du Parlement, ils sont prêts d'examiner, pour qu'on puisse moderniser ce secteur. Et que demain, nous puissions dire oui, maintenant ça va. Le secteur de l'enseignement universitaire et supérieur dans notre pays marche, que les auditoires ne sont plus bondés, que le programme des cours dans toutes les facultés, ce programme sont modernes et adaptés à l'environnement social, économique de notre pays. Je crois qu'il faut cette réflexion-là, plutôt que de nous attarder à toute cette bataille qui a tort, qui a raison, qui est réunie, qui a fait quoi. Je crois qu'il est temps qu'on puisse travailler sur la réforme, une bonne réforme, pour ce secteur d'habitat de notre pays.
Oui, non, mais il faut que les choses soient claires, professeur Tshibangu Kalala. Est-ce que le ministre a, par exemple, je vais lire dans les mémos des présidents du conseil d'administration, il se plaint du fait que le ministre préside des réunions des organes des bases, le cas, ils vont donner un cas, c'est l'unité où le ministre a dirigé le conseil de l'université. Est-ce que ça ressort des prérogatives du ministre?
Oui, mais madame.
Est-ce qu'il a le contrôle de ces organismes? Est-ce qu'il doit diriger les réunions?
Madame, si je me trouvais devant le tribunal, j'allais trancher. Pour dire, le ministre a tort ou a raison, les présidents ont tort ou raison. Je vous propose que nous puissions dépasser. Parce que le ministre va vous dire que non, moi, j'ai raison. Il y a l'ordonnance qui organise l'organisation, le fonctionnement du gouvernement, qui lui donne certaines compétences. Les autres vont dire non, mais ça, ce n'est pas exact, etc. Écoutez, là, je ne veux pas qu'on se lance justement. Il faut prendre acte, du fait qu'il y a un malaise profond. Et que ce que les présidents des conseils d'administration sont en train de dire, est-ce que tout est faux sur la ligne? J'en sais rien. Ce que le ministre dit, est-ce que tout est faux sur la ligne, il y a des vérités? Je pense franchement qu'il est bon aujourd'hui, profitant de ce malaise, n'est-ce pas, que nous puissions nous asseoir autour de table. Qu'on refasse encore ce qu'on a fait il y a des années, hein, les états généraux de l'enseignement, je crois que le professeur voit ça, vous avez peut-être assisté, comme vous êtes très actif dans le domaine, vous avez assisté aux états généraux de l'enseignement, il faut qu'il y ait une nouvelle réflexion, qu'on remette à jour toutes ces réflexions, qu'on regarde les programmes, qu'on revoie les lois, notamment la loi de 1981 qui organise l'enseignement universel supérieur dans notre pays, il faut qu'on puisse moderniser ce secteur de manière à ce qu'on évite ce type de situation qui n'honore pas, si vous voulez, notre pays, qui n'honore pas nos universités. Donc il faut absolument qu'on change radicalement.
Voilà, merci professeur Tshibangu. Docteur Boissa, parlons des états généraux. Le professeur Tshibangu nous confirme que vous avez pris part à ces états généraux de l'enseignement. C'est quoi la suite après ces états généraux de l'enseignement? Est-ce que le milieu universitaire est assaini?
Écoutez, moi j'ai une idée sur la manière dont on conduit une fonction ministérielle. Je pense que le ministre ne devrait pas s'occuper de la gestion quotidienne de l'administration, des établissements, etc. Le ministre doit avoir sa vision, il doit avoir un programme, et il a, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a des textes qui, même s'ils viennent de la Deuxième République, quand, s'ils étaient appliqués correctement, on n'aurait pas ces problèmes. C'est ça un peu mon problème. Moi, je pense que ce qui serait le plus intéressant, c'est revisiter un peu les réflexions qu'on a faites. Il y a eu les états généraux de l'éducation, ok? Mais ces états généraux ont été faits à la suite des travaux de la Conférence nationale sur presse, où il y a des actes qui ont été pris, où il y a une charte même de l'éducation, qui a été votée par 2850 conférenciers, à l'unanimité. Bon, en fait, j'ai dit quand le professeur Machako est devenu ministre, je passais sur une chaîne périphérique, j'ai dit que, au fait, tout est facilité pour lui parce que l'autopsie a été faite plusieurs fois à la conférence nationale, lors des états généraux, et en ce qui concerne les programmes, il a une chance extraordinaire parce qu'il arrive après Émile Ngoy qui s'est intéressé à la réforme des programmes. C'est la première fois qu'on s'est attaqué à ça. Et moi, je me rappelle quand je suis rentrer dans cette université, ce qui m'a choqué, c'est que on n'a pas trouvé des programmes aussi costauds qu'on en a maintenant. hein, à la suite des travaux de Lubumbashi qui ont été faits il y a 3 ans, aujourd'hui, on a quand même les programmes. Alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, nous devons, nous, professeurs d'université, nous intéressons à la gestion des établissements au sein desquels nous sommes. Et là, je dois vous dire que la gestion, que ce soit des facultés, que ce soit des sections, etc., que ce soit des conseils d'université, pose quand même problème. Et moi, ça m'étonne parce que ces établissements sont gérés par ceux qui, en fait, pour être professeurs d'université, ils ont été triés sur le volet. Regardez, sur 60 millions d'habitants, nous ne sommes que 1400. Ça signifie quand même que ce n'est pas n'importe qui, hein, qui a été nommé prof d'université. Nous devons nous intéresser davantage aux programmes, non seulement qui sont là, mais sur l'exécution effective des programmes. Ça aussi, c'est un problème. Le contenu des programmes. Vous savez que c'est un travail qui n'est pas encore fait, hein, dans les universités étrangères, que ce soit la France, la Belgique, etc. Quand on vous confie un cours, on vous dit, vous allez enseigner la biochimie en deuxième graduat en médecine, mais voici le contenu de ce que vous devez enseigner obligatoirement pour que quand l'inspection de l'enseignement supérieur viendra pour valider le diplôme ou l'année, qu'on voit que c'est OK. Bon, pour le moment, c'est pas fait. Donc, il y a beaucoup de travail, hein, qui doit se faire au niveau du ministère. Il y a aussi un problème de cette gestion des ressources humaines dont on parlait son Excellence. Cette affaire de la relève, lui sait parfaitement pourquoi il y a des problèmes avec la gestion de la relève. Il a été doyen des facultés. Hein. À partir du moment où notre pays, depuis 1983, a perdu son budget, hein, le ministère d'enseignement supérieur universitaire a un budget modique. Bon, ça devient difficile, hein. De gérer et les ressources humaines et la relève, etc. C'est très, très compliqué. Alors, si nous allons faire la gestion des ressources matérielles, mais qu'est-ce qui reste encore de l'enseignement supérieur? Pratiquement plus rien. Alors, nous avons aussi une étape, hein, dans l'enseignement supérieur. C'est quoi? C'est que lorsque nous avons entamé la transition politique mobutienne, il y a eu un ministre qui a trouvé bon d'imaginer ce qu'on appelait la politique d'essaimage et qui a créé des établissements d'enseignement supérieur universitaire dans tous les villages. Alors, lorsque nous étions au Parlement des Transitions, on avait s'attaqué à ces problèmes, c'était impossible. Parce que tous les politiciens, chaque politicien voulait une IVC dans son village. Problème, non, c'est un grand problème. Ouais. Maintenant, ensuite, dans l'ère Kabila, il y a aussi, on a aussi créé beaucoup d'établissements comme ça, hein, sans budget, sans rien.
Oui, dans son bata, là, vous-même, vous évoquez qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'enseignement universitaire.
Oui, donc moi, je pense
que... Le ministre n'a pas raison, finalement, de s'ingérer.
Non, attends. Le ministre ne peut pas s'ingérer dans la gestion des établissements parce que les textes, hein, qui régissent ces établissements d'enseignement supérieur, je ne sais pas si vous comprenez.
Ils ne sont pas les maîtres de l'ordre.
Je dis ceci. Les textes qui régissent l'enseignement supérieur ont parfaitement défini les prérogatives de chacun des organes de notre ministère. OK? Et le ministre sait très bien quelles sont ses attributions dans tout cela. Parce que nous avons fonctionné comme ça jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que les personnes, les mises en place qu'on fait sont adéquates? Parce que moi, je me rappelle, jusqu'en 90, personne ne pouvait être recteur qui n'était pas nommé par le président de la République, parce que c'est le texte qui nous dit qu'on ne peut pas être recteur comme ça. Hein? Maintenant, depuis plusieurs années, nous avons des recteurs et des directeurs généraux désignés par le ministre. Donc, c'est quand même un problème qui doit être suivi, non seulement par notre ministre, mais par le Premier ministre et par le président de la République, parce que les attributions qui sont prévues dans les textes qui régissent l'enseignement supérieur universitaire, des attributions qui reviennent au président de la République, et des attributions qui reviennent au ministre,
merci,
et qui reviennent au recteur. Voilà un peu ce que je veux dire.
Voilà, merci,
donc, il y a quand même un problème. Mais je crois que si on appliquait, si on exécutait vraiment les textes qui régissent l'enseignement supérieur, on n'aurait pas le quark qu'on vit maintenant et que nous voulons que ça s'estompe rapidement. Parce que nous n'avons pas besoin de ça.
Voilà, merci docteur. Les auditeurs aussi sont nombreux à réagir. C'est le cas de Papi de Kalemi au Katanga qui dit ceci. C'est une question qui s'adresse au ministre Machako. Il dit que depuis que le ministre Machako est au pouvoir, il pose plus de problèmes que de solutions à ce problème. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup et je voudrais remercier non seulement Papi qui vient de poser la question, mais également le professeur Zibango et le professeur Bassa. Et je suis d'autant plus heureux que l'un et l'autre ont soulevé la complexité de la situation. Je retiens que depuis les années 80, le budget de l'enseignement supérieur qui était de l'ordre de 30% pour l'ensemble du budget de l'État, vous savez aujourd'hui, il est de l'ordre de 2%. À l'époque, il y avait à peine 27 établissements. Aujourd'hui, il y a plus de 800 établissements de l'enseignement supérieur universitaire. Le professeur Boissard a rappelé quand le semage a commencé. Et c'est sans enseignants, sans bâtiments, sans équipements, sans bibliothèque. Et dans les 11 provinces, on donne des diplômes de gradués, des diplômes de licenciés. Ça ne remonte pas à la nomination du ministre, mais c'est un point important. Il y a plusieurs diagnostics qui ont été posés, conférence nationale, État général de l'éducation, moi-même j'y ai participé, et est arrivé enfin le pacte de la modernisation de l'éducation avec le ministre Mingoy. Il est important de rappeler, de porter la connaissance des auditeurs, que ce programme qui a été mis en place, cette réflexion en 2004, qui a créé de nouvelles filières, devait être réévalué en 2007, donc pour coïncider avec la sortie du premier cycle des premiers gradués. Je vous rappelle qu'on a créé de nouvelles filières qui, jusqu'à présent, n'ont aucun texte de couverture comme création de filières. Et je voudrais aussi vous rappeler le colloque de Lubumbashi de Mbanzamungu et dire, c'est une information, la dernière mise en place par l'autorité compétente pour nommer les recteurs et les DG, le dernier recteur général remonte à 1986, avec une exception pour 8 personnes, et c'est la dernière nomination, c'était le 5 mars 2005. C'est ainsi qu'il est important de voir que déjà en 91 jusqu'en 2000, tous les recteurs qui se sont succédés à l'université de Kinshasa n'avaient pas été nommés par ordonnance. Ça veut dire que la loi présidente, le cas où l'autorité qui doit nommer pour des raisons X ne peut pas le faire, les textes prévoient le fameux article 60 qui est décrié et qui a été appliqué depuis déjà pas mal d'années pour les 27 établissements. Maintenant, je vous dis, il y a 800 établissements qui n'ont pas été créés par ordonnance comme l'exige la loi. Et c'est en fait des conseils d'administration qui ont la mission de pouvoir faire évoluer le dossier ministère jusqu'à la présidence. Donc, ce que vous dire aujourd'hui, sans budget, sans enseignants, sans bâtiments, sans équipement, aujourd'hui, la voie qu'a proposé le professeur Chibang, c'est celle-là, aller vers les réformes. Mais vous ne pouvez pas faire les réformes, le professeur Bassé Mathien, si vous n'avez pas fait un bon diagnostic. Comment vous allez faire une réforme sans connaître le nombre d'établissements? Comment vous allez faire une réforme sans savoir quel âge de ressources humaines, le nombre d'étudiants, comment sont-ils répartis? Donc, ce sont des problèmes qui se sont accumulés d'année en année. Ça a arrangé, bien sûr, pas mal de gens, notamment ces étudiants qui veulent réussir sans avoir étudié. Vous rappelez aussi le drame du CEDEP Université Ouverte. Ça ne remonte pas d'aujourd'hui, malgré que les textes qui sont évoqués, notamment la 025 du 3 octobre 81, qui précise que c'est un programme spécialisé du ministère et qui a comme rôle le lien entre l'université et la société. Aujourd'hui, vous savez, plus de 400 sites de cette université publique et qui siège au conseil, quand il y a un conseil d'administration qui siège, tout en sachant qu'il n'y a que 6 professeurs pour plus de 45 000 étudiants. C'est vous dire aujourd'hui, si vous ne connaissez pas le nombre réel de professeurs, de chefs de travaux, d'assistants, si vous n'avez pas vu qu'aujourd'hui toutes ces universités empiètent sur l'enseignement primaire et secondaire, la massification des auditoires, comment vous pouvez aujourd'hui penser que c'est en disant le mot réforme, et je reviens sur le problème, on devait évaluer en 2007, nous sommes en 2010, l'évaluation n'a pas été faite. Dans les instructions que j'ai données pour l'année académique 2009-2010, j'ai demandé que chaque établissement puisse évaluer le PADEM. Donc, évaluer le nouveau, les nouvelles filières qui ont été créées, comment ça s'est passé, y avait-il des anciens qualifiés, y a-t-il des équipements adaptés. Vous ne pouvez pas faire une réforme si finalement vous n'avez pas évalué tout cela. Si, et voilà pourquoi nous avons dit au gouvernement qu'il faut d'abord qu'il y ait cette enquête de viabilité qui concerne l'ensemble du pays, les 11 provinces. Ça nous permet de connaître non seulement là où sont situés les établissements, les différentes ressources, leur niveau d'équipement, et tel que ça a été adopté au Conseil des ministres après cet état, après ce diagnostic que nous espérons le plus de dossiers possible, réunir les états généraux. Et à l'issue des états généraux, maintenant, adapter les textes pour couvrir les nouvelles filières où il y a des diplômes qui sont donnés, mais sans aucune couverture. Et 9/10, c'est une information que vous devez connaître, 9/10 des établissements de l'SMH n'ont pas un seul texte qui les couvre. Et donc, cette situation, il faut la connaître, parce qu'autrement, on va penser qu'on est en train de déranger les gens, qu'on est en train de faire ceci ou cela. Je pense que le ministre n'a pas le temps de gérer au quotidien plus de 1800 établissements. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas que les gens tombent dans la facilité. Il y a des problèmes dans les 11 provinces. On essaye de le savoir, mais le professeur Bois, c'est un jour, j'ai réuni
le
ministre, s'il vous plaît, à l'intendance générale.
Monsieur le ministre, s'il vous plaît.
Un conseil facultaire.
Voilà, merci. Merci, on va revenir à vous, le temps pour moi de passer la parole au professeur Thibault Boukalala qui regarde le chrono. Professeur, vous avez la parole.
Non. Bon, madame, merci. Eh bien, je vais réagir sur un point ou deux. La question du respect des textes. Bon, en fait, c'est ça le problème qui nous amène ce soir à Radio Capi. C'est vrai que nous avons des textes. Mais comme tout le monde le sait, et là je parle à un juriste, eh bien, dur Alex, c'est de l'ex. Pessime Alex, c'est de l'ex. La loi peut être dure, peut être mauvaise, mais c'est la loi. Et donc nous devons faire un effort de respecter les lois telles qu'elles existent aujourd'hui, de respecter les règlements tels qu'ils existent aujourd'hui. Ça, il faut le faire. Maintenant, s'il y a des problèmes pratiques qui se sont posés dans la gestion ou dans le respect de cette loi, il faut voir comment nous devons améliorer le système. On ne va pas continuer là. Avec la loi dit qu'un recteur de l'université doit être nommé par le président de la République, et puis on voit une autorité autre que le président de la République qui nommait le recteur. Est-ce que nous avons un président de la République dans ce pays ou on en a pas? Eh bien, c'est pas possible. Et donc, on ne peut pas continuer à gérer un État de cette manière. Et je suis d'accord avec ce que le ministre vient de dire. Une fois, c'est vrai, on ne va pas faire une réforme pour le pays de faire une réforme. Une réforme doit être précédée par une étude de terrain pour rassembler les matériaux, voir les réalités. Et cette étude doit précéder la mise en place ou l'élaboration de la réforme en tant que telle. Mais il faut très rapidement, monsieur le ministre, et vous avez cette responsabilité, il faut très rapidement mettre en place le processus pour que nous puissions réformer le secteur. C'est une honte aujourd'hui, et c'est indéfendable qu'aujourd'hui, que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, ce n'est pas vous, ça peut être ceux qui vous ont procédé ou ceux qui vont venir après vous, continuer à nommer des recteurs ou le directeur général, alors que c'est une compétence au chef de l'Opération de la République. Bon, ça, c'est la rigolade, on ne va pas continuer à gérer un État comme ça. Alors, si, et c'est ça mon avis personnel, bon, j'ai étudié dans certaines universités étrangères, et bien les chefs d'établissement, ce sont les pires qui les nomment, par exemple en Europe, ou les doyens, ou les recteurs, ce sont les conseils d'administration qui se réunissent et disent le père suivant les mandats bien respectés. Et là, ça va. Je ne vois pas aujourd'hui dans un état de droit, dans une société démocratique comme la nôtre aujourd'hui, que le pouvoir politique continue à chercher à avoir la mainmise, n'est-ce pas, sur les nominations des chefs d'établissement. Ça se comprendrait, ça se peut comprendre, quand on était à l'époque du parti-État, où il fallait encadrer la population politiquement, il faut tout contrôler avec des services partout, on comprendrait. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut libérer cette compétence, réserver ça aux professeurs, ce sera de voir par Dieu qui convient pour diriger une faculté, une section, une université, etc. Il faut qu'on tente cette expérience-là. On va voir ce que ça va donner. S'il y a des dérapages, bon, le pouvoir politique pourrait toujours intervenir, mais je crois qu'il faut libérer ça avec la liberté économique, disons, académique, et responsabiliser les gens. Donc, je voulais insister sur ce point de respect des textes. Maintenant, et là je m'adresse à M. le ministre, franchement, vous devez poursuivre l'action des autres entreprises. C'est une honte aujourd'hui pour notre pays d'avoir des universités privées, des institutions par-ci par-là dans nos villages, où c'est de l'aventure. On donne l'impression aux jeunes Congolais qu'on est en train de les former, alors qu'on leur rend un très mauvais service. Je suis allé un jour, et un ami m'a raconté ce qui s'est passé à Chicapa. Donc vous trouvez un garçon qui est licencié en droit, qui ne sait même pas comment écrire une phrase en français, il est doyen d'une faculté. Vous vous imaginez. Mais on est là dans quel monde, dans quel pays? On se moque de nous. Écoutez, il faut poursuivre ce travail d'assainissement. Nous savons que ça fait mal, n'est-ce pas? Mais si vous voulez redresser, soigner une plaie, oui, il faut vraiment pousser, vous êtes médecin, monsieur le ministre, et donc il faut parfois utiliser votre bistouri pour franchement casser ce cancer, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter ça. Nous vous encourageons, et moi-même en tant que député, eh bien, il faut faire cette réforme. Il faut assainir ce secteur, ne retenir que les établissements qui sont viables. Sinon, nous continuons à rendre un mauvais service à notre jeunesse en les mettant dans n'importe quel endroit pour avoir la formation.
Merci, professeur. Je vais lire quelques réactions des auditeurs. Ils sont tellement nombreux à avoir réagi au terme de ce soir. Kaindo Mouessi, Augustin de Liège en Belgique. J'encourage le ministre Machako pour le changement qu'il opère dans l'enseignement supérieur et universitaire. À mon avis, les nominations ont été opportunes car certaines autorités académiques étaient devenues des chefs coutumiers sans créativité et pratiquant de la politique du ventre. Robert Baume de Bukavu, Sud-Kivu, ces accusations ne peuvent être fondées que si un organe habilité à nommer les membres des comités de gestion des instituts supérieurs et universitaires est mis en place. Je pense que le ministre Machako a raison de procéder ainsi, étant donné que la gestion politique et administrative de ces institutions lui revient de plein droit. Maïni Franklin de Bukavu Sud-Kivu, le problème du Congo c'est un problème d'homme, c'est regrettable de voir que même les professeurs ne veulent pas le changement positif que va apporter le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui depuis son arrivée à ce ministère en remarque une amélioration. Docteur Bossa, votre conclusion, il reste 2 minutes pour mettre fin à cette émission.
Non, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration parce qu'en fait, l'élément humain, hein, le professeur d'université dans ce pays connaît une situation catastrophique. Et je pense que, en ce qui concerne le sujet du jour, moi je pense que son Excellence peut inviter les 3 présidents du conseil d'administration et qu'ils puissent
trouver une solution,
qu'ils puissent harmoniser.
Merci, docteur.
Ils sont au sommet de la pyramide de l'enseignement.
Voilà, merci docteur, monsieur.
Voilà, comment moi je vois, en tant que politique, une solution à ce problème.
En 30 secondes, professeur.
Oui, c'est bien. Moi je préconise le retour au texte. On doit respecter les lois et règlements en vigueur et les changer. Et 2, si notre peuple veut avoir un enseignement de qualité, il faut payer le prix. Et donc il faut financer de manière considérable l'enseignement supérieur.
Merci, professeur Kibangu, monsieur le ministre. Vous allez rencontrer les 3 présidents du conseil d'administration.
La porte n'a jamais été fermée, madame.
Voilà, merci, monsieur le ministre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos auditeurs d'avoir réagi au terme de ce soir. Merci à Guimaté, assisté de Samuel Kachak et Martin Seboujangwe qui ont préparé pour vous cette émission. Alain Goy était à la technique, au micro, au ciel écouté. Et retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiofatigue.net. Bon, tout de suite, le programme sur la fréquence et la paix.
Oh, Cassie, oh, Cassie.